de suite sur Resto Geek, votre émission d'actualité jeux vidéo, Burger Games.
Bonjour et bonsoir à tous et à toutes sur cet épisode numéro 4 de Burger Game, basé sur les jeux qui sortiront en septembre ainsi que les news parues en août. Alors je suis en compagnie de Natiz.
Hello, hello!
Ainsi que Darkos.
Bonsoir.
Alors, comme pour Tardis, on a un petit peu modifié la formule pour que l'émission soit un peu plus courte. Je ne voulais pas vous spoiler, je vais tout de suite en vous en parler dans le sommaire. Alors, on a ajouté un petit test de jeu récent. En fait, c'est des jeux qui sont sortis il y a un peu moins de 6 mois au maximum. Voilà, donc là, on va commencer directement par... ça sera Arcos qui va nous parler d'une petite démo qu'il a testée. En partenariat avec Nighties, c'est ça?
Ouais. C'est ça, tout à fait.
Je pourrais mettre mon petit grain de sel sur cette démo.
Super. Ensuite, on va vous parler des jeux mémorables qu'on attend, Nighties et moi-même, sur différentes consoles, qui devraient bien vous plaire aussi. Nous aurons la toute petite nouveauté un peu drôle, qui sera débutée par Arcos aussi. Hein, décidément, on le fait travailler pour sa deuxième émission. Ensuite, on parlera du jeu principal plus attendu de ce mois-ci. Ah, celui-là, il devrait bien vous plaire et bien vous hyper. Et puis, on finira par quelques news sorties ce mois d'août, concernant les jeux vidéo comme on a l'habitude. Je vais vous proposer de passer à notre petite nouveauté de test de jeu. Donc c'est Arcos qui va commencer, parce que c'est lui qui a testé une démo sur Switch, je crois. C'était quel jeu, Arcos?
Eh bien, j'ai testé la démo de Dragon Quest XI, les combattants de la destinée Ultimate Edition. Donc sur le Nintendo eShop, Nintendo a rendu disponible la démo de ce jeu. Donc qu'est-ce que Dragon Quest, déjà? Dragon Quest, c'est le JRPG classique, donc jeu de rôle japonais. Ça a été créé en 1986 et c'est vraiment le héros avec son équipe qui va devoir chasser le mal, tuer des monstres, avec des combats au tour par tour, de la magie, de la gestion d'équipement et tout ça.
Et les graphismes de...
Akira Toriyama.
C'est ça.
Donc il y a un an, Dragon Quest XI est sorti sur PS4 et PC, et là on a le droit à une réédition sur Switch.
Il y a 2 ans maintenant.
Ah, j'ai noté le 4 septembre 2018.
J'ai noté juillet 2017.
Ah, mais t'as la date au Japon. J'ai pris que la date occidentale.
Ah.
Ouais, parce que les Japonais sont favorisés.
Bah oui, ils ont une sortie sur 3DS, on l'a pas eu. Du coup, Dragon Quest XI qui est sorti en Occident sur PS4 et PC le 4 septembre 2018, il y a un an. Et là, on a droit à une réédition sur Switch prévue pour le 27 septembre 2019. Et d'ici là, on peut jouer à la démo sur la Nintendo eShop qui va nous présenter un peu les changements du jeu. Et... Alors, déjà, un des ajouts très attendu, c'est l'ajout des voix japonaises au jeu. Parce qu'avant... il n'y avait pas de voix japonaise, il y avait les voix anglaises, mais quand on jouait en japonais, les personnages n'avaient pas de voix, tout simplement. Alors toutes les vidéos étaient muettes. Et ça donne vraiment du corps au jeu, ça donne de la vie, et c'était un peu ce qui manquait. Une deuxième chose qui a été ajoutée, et là qui a été beaucoup plus attendue, c'est l'ajout d'un mode 2D. Il faut savoir que sur 3DS, dans une exclusivité qui est sortie uniquement au Japon, l'écran du haut présentait l'affichage 3D comme un Dragon Quest 3D... moderne, et l'écran du bas présentait un affichage 2D comme les anciens Dragon Quest, en fait, la version rétro où tu vois ton petit personnage bouger un peu à la Donjon Mystère, à tout ce genre de jeu. Et maintenant sur Switch, on a la possibilité de changer entre ces modes juste en allant dans une église et en demandant à switcher. Graphiquement, ça permet d'avoir de l'air, enfin, ça permet de changer de point de vue, et franchement c'est sympathique. C'est toujours plaisant de revenir à des jeux, à des graphismes un peu pixel art, un peu rétro. Surtout qu'ils sont très beaux, hein, c'est pas le rétro des premiers Zelda ou quoi, c'est avec la technologie qu'on a aujourd'hui. Et par contre, le fait de changer de point de vue comme ça, ça renvoie au début du chapitre en cours, parce que l'histoire apparemment est séparée en chapitres. Quand vous voulez changer de point de vue, faut retourner au début du chapitre, ça peut être un frein. De plus, on a une musique orchestrale dans le jeu. Ça vient du cœur, c'est vraiment plaisant. Parce que c'est un peu ce qui manquait pour donner de la puissance. La musique, c'est toujours de l'environnement. Et avoir une version orchestrale, ça donne un environnement graphique, déjà, l'environnement graphique 3D, une ampleur. Et sinon, on a des ajouts de quêtes annexes qui se passent dans les anciens jeu Dragon Quest, des nouveaux scénarios par rapport à d'autres personnages, etc. Cette démo est disponible sur le Nintendo eShop, malheureusement sans l'accès à l'affichage 2D, mais vous pouvez quand même faire une partie, avancer, sauvegarder, farmer, continuer de sauvegarder, et après la sortie du jeu, vous pourrez récupérer votre sauvegarde et jouer directement dessus.
Ah, comme ils avaient fait pour Builder 2.
Ouais, comme beaucoup de jeux maintenant en fait.
Ça reste pratique, surtout pour un Dragon Quest où c'est intéressant toujours de farmer, d'aller chercher des objets dans le monde, d'aller tuer des mobs.
De monter de niveau en tuant les mobs.
Voilà. D'acheter de l'équipement aussi.
Objectif qu'à la sortie du jeu, on soit niveau 100.
Peut-être un peu haut là, mais au moins.
Comme ça, on fume le jeu.
Allez.
Va tuer des gluants toute la nuit. Alors. Et c'est là que je vais avoir besoin de Nightess. Moi, j'ai pas joué au jeu il y a un an. Voilà. Et du coup, je sais pas à quel point le jeu est dur. Alors, est-ce que ça fait partie des... Est-ce que ça a de l'intérêt de farmer au début comme ça? Ou pas du tout?
J'ai un très grand intérêt. Après, du coup, on me l'a offert il y a un mois maintenant. Donc, je l'ai testé il y a pas très longtemps. Mais bon, étant grande fan des JRPG, Final Fantasy, Dragon Quest et autres, je sais de base qu'il faut farmer. Au bout d'un moment, tu vas arriver contre un monstre, si t'as pas farmé avant, t'es mort. Donc pour l'instant, j'ai dû jouer 2 heures à peu près sur le jeu. Et j'ai trouvé, bon, les graphismes, la musique, toujours magnifique, hein. Ça change pas. L'histoire qui m'a l'air très intéressante. Et j'aime beaucoup l'idée des points de sauvegarde dans les églises, avec la petite musique religieuse au moment où tu sauvegardes. Ça donne un petit cachet au jeu.
Bah après ça, enfin d'aussi loin que je me souvienne, ça a été vrai dans les Dragon Quest.
Dans les premiers, mais je me souviens d'un ou deux où il n'y avait pas.
Voilà, après, j'ai surtout joué à l'Odyssée du Roi Maudit, où du coup, j'ai vraiment l'impression de retrouver exactement le même univers, il y a les mêmes textes dans les églises et tout. Mais juste, ça va être une autre histoire. Et c'est ça qui est plaisant. C'est que tu te retrouves dans le même système. C'est ça qui est plaisant chez Dragon Quest. T'es dans un système que tu connais, mais il va te raconter quelque chose qui est différent. Tu vas rencontrer des gens qui sont différents. Mais t'es dans tes bottes. C'est comme jouer à un autre jeu Pokémon, en fait.
Ouais, c'est un peu le principe. Après, pour le peu que j'ai testé, je me suis retrouvé dans une prison, poursuivi par un dragon. Où du coup, on se voit courir de face. Il faut éviter les monstres et les obstacles. C'est assez comique. Tout en ayant le dragon, tu vois le dragon derrière qui se rapproche de toi au fur et à mesure que tu cours. Donc il y a des petites nouveautés par rapport aux anciens jeux Dragon Quest, au niveau de la mise en forme, on va dire, qui sont assez intéressantes.
Oui, après, on a toujours les monstres qui sont visibles, qu'on peut attaquer avant qu'ils nous attaquent sur le terrain.
C'est ça. On a toujours le gluant symbolique, le petit smile bleu, là.
Les forces des anciens Dragon Quest mélangées à de nouveaux styles de gameplay, quoi.
On peut dire ça. Même si le gameplay reste assez identique, en fait. Il y a peut-être une ou deux petites nouveautés à certains passages précis.
Voilà, ça se modernise. Par exemple, dans les combats, maintenant, on peut marcher. On peut se déplacer pendant le combat.
Oui,
mais
c'est vrai.
C'est toujours le tour par tour où tu choisis ton attaque. Après, ton personnage va attaquer. Et c'est juste, tu vas te déplacer parce que, je sais pas, peut-être que tu veux voir le dos des monstres, un truc comme ça. On a le contrôle complet.
Ou pour t'occuper le temps que le monstre t'attaque.
Voilà, du coup, si vous avez pas les versions originales et que vous aimez bien le genre de Dragon Quest, n'hésitez pas.
Prenez les pirater.
N'hésitez pas à le prendre, que ça soit sur la Switch, PS4 ou autre.
Si vous avez le choix, prenez la Switch quand même, parce que du coup, ils ont rajouté beaucoup de choses.
Je pense que les patchs vont arriver sur les jeux de console derrière.
Pour rajouter la musique orchestrale, pour rajouter les voix japonaises aussi, je suis pas sûr. Hein, parce que apparemment les voix japonaises c'était un problème de licence avant. Et c'est pour ça que là, ils ont pu négocier pour avoir des voix japonaises en plus. Le jeu a été codé sans les voix.
D'accord. À voir du coup. Bon, privilégiez la version Switch pour l'instant et on vous tient au courant s'il y a une mise à jour sur les autres consoles.
Ok, très bien. Écoutez, merci à tous les deux pour ce test de jeu vidéo. Et alors, finalement, vos avis à tous les deux sont quand même assez semblables. En gros, c'est un bon petit Dragon Quest qu'il faut essayer ou réessayer si jamais on a déjà joué à la version précédente, quoi.
Et même pour découvrir, en fait.
Voilà. Et puis, bah, de toute façon, il y a la démo sur le Nintendo eShop, donc faites-vous plaisir, c'est gratuit.
Il y a la démo, pensez à le tester. Et puis, moi, je propose qu'à... Comme ça fait un petit moment qu'on parle de ce jeu-là, je propose qu'on change de jeu et qu'on passe à des jeux qui sortiront.
Oui,
des jeux, et surtout là, pour l'instant, une extension qui sortira en mois de septembre. Voilà.
Très prochainement. Léthys,
je te laisse la présenter.
Oui, ben du coup, on va parler de la dernière extension qui va sortir le 6 septembre de Monster Hunter World, qui s'appelle du coup, l'extension s'appelle Iceborne. Et du coup, comme je disais, elle sort le 6 septembre sur PC, PS4, Xbox. Et elle sortira un peu plus tard sur Steam, en janvier 2020. Je sais pas trop pourquoi elle sort un peu plus tard sur Steam alors qu'elle sort en version classique PC en septembre, mais bon. À voir. Donc, pour ceux qui connaissent pas, Monster Hunter, c'est un action RPG qui est sorti déjà à un moment. La dernière jeu sortie, du coup, Monster Hunter World. Donc, action RPG, on a des quêtes, on doit tuer des monstres, on joue le rôle d'un explorateur, on doit comprendre le mystère de la migration des différentes créatures, justement, de notre monde. Et du coup, à travers ces quêtes, sur tous ces monstres, on va pouvoir en apprendre un peu plus. Comme tout action RPG classique, on se bat contre les monstres, on a nos petites quêtes, on monte de niveau, et plus ça va, plus les monstres vont être compliqués à tuer. Du coup, cette dernière extension qui sort va être, d'après les créateurs, la conclusion de l'histoire du jeu. Il n'y aura pas d'autres grandes extensions derrière ça. Quelques petites mises à jour. Quelques petits ajouts, mais rien de plus. On va vraiment finir l'histoire du jeu à travers cette extension. Où on aura une nouvelle région entière à découvrir. Avec des nouvelles créatures, nouvelles armes et autres. Pour tout avouer, je n'ai jamais joué à Monster Hunter. Ni Monster Hunter World. Voilà. Mais j'ai toujours adoré l'univers. Je me dis, un jour, je vais tenter, et je suis tombée sur là l'extension, et je me suis dit, ah, ça me donnerait bien envie de démarrer le jeu, en fait.
Ça me donne bien envie d'essayer le jeu. Ah, bah, il y a une extension qui sort. Bah, parfait.
C'est ça. Je vais peut-être attendre qu'il fasse un lot entier, et puis tout acheter. Non, en vrai, c'est un jeu magnifique au niveau graphisme. Après, action RPG classique, hein, étant fan de tout ce qui est RPG, voilà, je ne pouvais que aimer. Donc l'extension a l'air très sympa, le jeu de base est applaudi par tout le monde, donc j'ai hâte, je risque de l'acheter, ou d'essayer de me le faire offrir, c'est bientôt mon anniversaire! Pardon. Hypé, et je vais peut-être m'acheter tout Monster Hunter World, juste pour l'extension.
Ouais, les Monster Hunter en général c'est quand même des bons... C'est des jeux assez difficiles parce qu'il faut quand même beaucoup farmer pour pouvoir avoir des armures décentes et avancer dans le jeu. Mais voilà, c'est ça, c'est au moins c'est un jeu qui est resté fidèle à son engagement d'être difficile. Et en général c'est des grosses tartes en termes de combat et de difficultés qu'ont les joueurs.
La difficulté ne me fait pas peur. Mais au moins c'est pas un jeu que tu finis en deux jours.
Non, clairement pas, non.
Donc voilà, donc on rappelle, il sort... dans moins d'une semaine, foncez l'acheter. Parce que le trailer donne vraiment envie.
Rappelle-nous la date complète.
Le 6 septembre.
6 septembre, super.
Et en janvier sur Steam.
Super. Bon, bah si on a fini avec Monster Hunter World, j'ai trouvé dans la rue quelqu'un qui me ressemblait, un sosie. Du coup, je l'ai invité pour qu'il fasse une chronique. Bonjour Tanguy, bonjour Stan, ça va bien? Oui, parfait, super. Alors, de quoi veux-tu nous parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je lui laisse le micro, hein, je reviendrai après. Alors, aujourd'hui, bonjour à tous, hein. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Catherine Full Body. Attention, ce qui suit est une annonce de jeu PEGI 18. Un jeu qui sortira le 3/9/2019 sur PC, PS4 et sur de vieilles consoles comme la PS3, l'Xbox 360 et la PS Vita. C'est un jeu un peu récent qui est déjà sorti en 2011-2012. Là, c'est une espèce de remake remastered qui va ressortir du coup. Alors, c'est un puzzle aventure érotique. Dans l'histoire, on va incarner un homme qui a la trentaine, dénommé Vincent, qui va sortir avec trois femmes en même temps, à ce que j'ai compris, tous dénommés Catherine, d'où le nom du jeu, pardon, vous allez comprendre pourquoi je dis film après. Alors, le jour le jour il fait sort avec ses femmes, la nuit aussi un petit peu, mais quand je parle de la nuit là c'est plus dans ses rêves, il fait des cauchemars où en fait des démons vont pas arrêter de poursuivre, et lui son but ça sera de monter tout en haut d'une pyramide de carré pour pouvoir s'enfuir ou se réveiller, je ne sais pas encore trop. En termes de gameplay, on aura des alternances cinématiques en mode animé qui sont assez sympas, très travaillées, et des gameplays plutôt simples mais efficaces. Donc dans le monde des rêves, ça sera bougé des cases, les carrés, une case par une case, ou alors des groupes de carrés pour pouvoir monter. Ça sera les mélanger pour pouvoir créer des escaliers, etc. Dans le mode jour, ça sera répondre à quelques SMS ou répondre à des questions. Et chaque choix aura un incidence sur l'histoire. Et finalement, vous allez pouvoir avoir trois fins différentes qui poussent du coup peut-être à recommencer le jeu ou à faire des sauvegardes plus souvent. Petite nouveauté du jeu que j'ai trouvé à la fois sympa et dommage, c'est que on peut passer en mode résolution de puzzle automatique. Donc en fait, vous allez voir votre personnage grimper automatiquement tout seul et résoudre les cassettes tout seul. Voilà, si jamais vous êtes bloqué dans une situation, ça peut être sympa. Si vous avez juste envie de continuer pour voir l'histoire, les cinématiques et tout, ça sera, ça peut être avantageux. Alors, maintenant je parle de mon avis et du coup de ce que c'est comme jeu un peu plus. L'histoire animée a l'air assez intéressante. Je vais pas vous spoiler, mais en fait Vincent rencontre une troisième Catherine, sort avec une Catherine qu'il connaît depuis longtemps, rencontre une nouvelle Catherine qui est poursuivi par une espèce de démon, qui là une autre Catherine qui sera son amante. Voilà. C'est un jeu érotique, même si il y a pas, c'est un érotique japonais plus dans le genre shoujo en fait plutôt que vraiment érotique. Donc ça va être des bisous. Il y aura des allusions mais pas trop fortes en tout cas ce que j'ai vu. Ça sera des bisous, des allusions un peu sexuelles, voilà, pas vraiment beaucoup plus. Avec possiblement une petite enquête policière dans la cinématique, puisqu'il y a des hommes surtout qui semblent mourir déshydratés. Mais moi je serais quand même plus intéressé par l'histoire dans les rêves, à savoir pourquoi le héros est poursuivi par des démons et qu'est-ce qu'il veut en faire en sorte de lui faire la peau. Voilà. Des questions ou des réflexions, mes amis ?
Non, je connaissais déjà rapidement le jeu, on va dire. Et ça a l'air un peu space, mais ça peut être marrant.
Ça a l'air space, mais drôle. Et toi, Arcos ?
Je connais pas du tout. Et c'est très étrange dans ma tête, j'avoue que là, je je sais pas quoi penser. J'ai l'impression de voir un vieil AMV.
Moi, je dois vous avouer qu'en fait, en cherchant les jeux, j'avais plein d'idées d'autres jeux que je mettrais, que je posterais sur les réseaux sociaux, un jeu que j'attendais. Mais celui-là, il me semblait tellement loufoque que j'ai fait « Non, celui-là, faut que j'en parle.
» Je peux comprendre. Il est très loufoque.
Et alors, maintenant qu'on a fini avec les jeux mémorables les jeux qu'on attendait ce mois-ci, on va passer au jeu principal. Mais avant ça, Arcos s'est pris pour un journaliste a essayé d'interroger le héros de ce jeu. Alors Arcos, comment ça s'est passé cette petite interview ?
Eh bien, difficile. J'ai dû voyager loin et le voyage a été compliqué, mortel. Mais vous verrez, je vous ai ramené tous les enregistrements.
Dans les labos secrets de Resto Geek.
Scanner. Transfert. Virtualisation.
Ah, enfin arrivé. Bon alors. Où suis-je ? Oula ! Un monstre est en train de manger à côté de moi. Il mange des cailloux ? Oh ! Je ferais mieux de m'éloigner pour le moment. Pour le moment, je ne vois que de l'herbe, des poules... Ah ! Un habitant. Il est tout petit, habillé en vert et porte une épée et un bouclier. C'est déjà moins dangereux, je crois. Je vais m'approcher un peu pour l'interroger. Gamin, tu pourrais me dire où nous sommes ? Eh oh, tu m'entends ? Oh ! Attention avec ton métier. Pourquoi couper de l'herbe avec? T'es jardinier? Eh mais, c'est un rubis. Un rubis est sorti de l'herbe, c'est complètement incroyable. Bon, je vais lui laisser, ça doit être son salaire de jardinier. Et puis, de toute façon, il est armé. Oh, un coffre maintenant. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Waouh! Toujours plus de rubis! Nous sommes riches! Enfin, surtout lui, avec son épée. Ah, l'habitant sort un coquille. Non, un ocarina de sa poche. Peut-être veut-il fêter sa trouvaille en musique. Quoi? La nuit tombe? Ce pays est décidément très étrange. Oh, la lune nous sourit. Bah, elle fait peur, mais c'est sympathique. Elle a l'air de grandir. Elle s'approche. Gamin! Gamin! Ah! Bon, ce fut très éprouvant, mais je crois bien que j'étais dans The Legend of Zelda. Et je suis certain de ne pas vouloir y retourner, si c'est pour mourir sous la lune. Voilà, la fin de mon enregistrement. Je suis heureux d'être rentré.
Eh ben dis donc, on peut dire que t'as eu chaud.
Ouais, pour mon premier reportage, bon, soyez indulgents, mais... J'ai eu chaud.
Non, tu t'es un peu perdu. T'as rencontré un gamin un peu bizarre.
C'est dommage, ce jeune homme n'était pas très loquace, mais en même temps qu'on connaît son histoire, c'est normal. Alors, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, là, Arcos était parti effectivement dans le jeu The Legend of Zelda, mais il était dans les plaines de Termina, à ce que j'ai compris. Mais ce n'est pas le jeu auquel nous allons parler et qui va sortir ce mois-ci. Là, nous allons parler de The Legend of Zelda Link's Awakening, que je vais appeler plus tard Link's Awakening ou simplement Awakening, pour éviter de me répéter et parce que le titre est très long, qui sortira en fin du mois, à savoir le 20 septembre 2019. Donc, comme l'ancien, comme c'est un remaster, ça, le type de jeu ne change pas, ça sera donc toujours un RPG action qui sortira sur Switch. Voilà. Alors, la petite histoire, bon bah c'est un Legend of Zelda. Donc c'est un remaster du jeu qui est sorti sur le Game Boy Color en 93. Alors il y a deux, il y a des dates différentes, c'est décembre en Occident, en Europe. Un peu plus tôt en Amérique, encore plus tôt en Japon. J'ai préféré mettre juste seulement l'année. Alors, on y retrouve donc l'histoire principale qui était déjà il y a presque 30 ans. Je vais arrondir très fortement, mais il y a 26 ans en tout. Donc, à savoir l'arrivée de l'île de sur l'île Cocolink de Link. Et oui, de Link, pas de Zelda. Merci, messieurs, dames. Parce que le héros s'appelle bien Link. Mettez-vous ça dans le crâne, s'il vous plaît. La prochaine fois que je vois une vidéo... Non, je diverge. Ça sert à rien.
Diverge.
Merci, mes amis. Donc, on vit l'arrivée... on revit l'arrivée sur l'île Cocolink de Link. Son réveil, après que son bateau a écoulé en mer, alors qu'il revenait de Hyrule, suite à sa victoire dans Link to the Past, je crois, si je me souviens de la chronologie. Il trouve les mêmes donjons à refaire pour récupérer des artefacts, pour réveiller le poisson rêve qui dort dans son œuf en haut d'une montagne sacrée, voilà, bon, c'est un Zelda classique, quoi, le héros trouve des artefacts, réveille une puissance phénoménale qui lui prête son pouvoir, et puis, Link défait le mal grâce à ça. Enfin là, Link, son but, c'est surtout de rentrer chez lui, puisqu'il est bloqué sur l'île. Alors, en termes de nouveautés, puisque c'est un remaster, on n'a pas grand-chose. En fait, les nouveautés sont principalement graphiques. Là, on passe d'un graphisme qui était vieillissant de 26 ans quand même. Même si, à mes yeux, c'était quand même assez beau. On passe du 2D classique à du 3D maintenant. Du 3D qui sont plus beaux, plus fluides, mais ça ressemble...
Kawaii,
j'irai pas jusque là, mais qui reste quand même assez proche de ce qui s'était fait il y a 26 ans. En gameplay, c'est sensiblement la même chose. Les combats sont un peu plus difficiles parce que ils ont revu le mécanisme de certains monstres qui vont esquiver plus facilement ou se mettre en garde pour bloquer les coups. Mais ça reste quand même assez simple. On a aussi, comme ça sort sur une nouvelle plateforme, on a du coup l'ajout en fait de pouvoir utiliser deux nouveaux objets de l'inventaire. Parce qu'en fait, quand on était sur Game Boy, on n'avait que la croix directionnelle, le bouton AB. Là, on est sur Switch, donc on a les mêmes boutons plus XY avec les gâchettes, un peu plus de boutons. Donc maintenant, vous allez pouvoir utiliser le bouclier, l'épée et deux objets, que ça soit les bombes, des noix de coco, des grenades fuminogènes, que ce que vous voulez. Alors que sur le Game Boy, vous aviez juste la possibilité d'utiliser, pouvoir utiliser l'épée, le bouclier en même temps, ou alors changer carrément toutes les armes. Là, vous avez que le choix d'utiliser que deux objets en même temps. Apparemment, à ce que j'ai compris, parce que moi je n'ai pas joué à la version d'il y a 26 ans, les dialogues seraient légèrement revus aussi en hausse, pas de redoublage, mais une légère réaugmentation, enfin une légère retraduction, pour coller un peu plus à l'esprit qu'ont voulu mettre les éditeurs japonais, mais qui reste quand même un langage bon enfant qu'on peut retrouver dans les Legends of Zelda classiques. Pour finir, moi sur ce jeu, que malheureusement je n'ai pas joué et pas vu beaucoup de gameplay pour pouvoir en parler beaucoup, c'est un jeu qui reste quand même du même calibre que les jeux Game Boy Color qui sont sortis à peu près à la même époque. Link to the Past, Oracle et Saison. C'est le style graphique est assez appréciable. Ça change de Twilight Princess, les Zelda sur Nintendo 64 ou ceux sur Game Boy Color ou GBA. La maniabilité est aussi plus accessible et plus appréciable, avec notamment le fait d'avoir à faire beaucoup moins d'allers-retours dans son inventaire pour aller chercher ces objets, qui était un gros défaut sur les Oracle et Saisons Link to the Past. Enfin, un gros défaut, c'était aussi qu'on n'avait pas trop de choix, puisque on n'avait pas plus de touches que ça sur nos Game Boy Color ou Game Boy Advance. Après, moi je mettrai un léger bémol, c'est sur la caméra qui en fait passe en vue 3/4. C'est un style de caméra que j'aime pas beaucoup pour style de jeu. Je préfère la vue de dos ou la vue de haut. Mais bon, ça reste quand même, c'est un petit détail qui ne devrait pas, être trop dérangeant. Et en plus de ça, c'est un jeu qui sort pas trop éloigné de la Switch Lite, donc ça peut-être possiblement m'aider à me remettre dans les Legend of Zelda que j'ai quelque peu arrêté depuis la Switch, par faute d'envie principalement, parce que j'avais pas envie de jouer avec les Nunchaku. J'espère.
Les Nunchaku.
Oui, j'appelle ça les Nunchaku.
Mais okay. Ça va pas.
Allez, j'espère aussi que Nintendo va continuer dans sa lancée comme ça et refaire des remakes ou des remasters de ces d'Oracle et de Saison, qui sont les premiers jeux Zelda auxquels j'ai joué. Sans parler de le Legend of Zelda sur Nintendo 64. Mais voilà. Moi après j'y ai pas trop joué. Je sais pas si un de vous deux y a joué.
Non.
Non, pas du tout. Je crois que Zelda et moi, c'est pas une grande histoire d'amour en fait.
D'accord. Ouais, malheureusement, pour mon avis, je vais le dire, ça va être un jeu qui devrait sortir dans les alentours 50 ou 60 euros, je pense. C'est un remaster, mais ils ont quand même pas mal bossé dessus. Je pense que c'est un jeu qui mérite qu'on en parle et qu'au moins qu'on l'essaye. Donc si vous voyez une démo ou si jamais vous voyez un pote qui joue, n'hésitez pas à lui demander, tiens, tu veux bien me le prêter pour que je le teste un petit peu.
Non, mais Grand Chef Typo qui est en vacances, je crois, est très hypé par ce jeu.
Ah, ça m'étonnerait pas. Il nous fera part de son avis sur le compte de Resto Geek. Bah écoutez, pour moi, ma chronique, on voit un petit message de Typo qui nous dit « Oui, je vais l'acheter
!» Parce que même s'il est pas présent, il nous écoute.
Il nous écoute, il est toujours avec nous. Ok, bah moi, j'aurais aimé pouvoir en parler plus, mais j'ai pas trouvé beaucoup plus de trucs à dire, malheureusement. Je pense que vous aurez compris nos avis, à mon avis. Du côté de Natiz, c'est les graphismes sont beaux. Du côté...
Mais Zelda, voilà, quoi.
Mais les Zelda, elle apprécie pas trop. Moi, de mon côté, les Zelda, c'est le jeu de mon enfance, voilà. C'est le jeu avec lequel j'ai commencé, donc je suis bien hype. Et Arcos n'a pas spécialement donné son avis, mais je pense qu'il est en...
Non, bah j'ai pas vu le jeu, donc je sais pas. Après, c'est vrai que les Zelda, j'y joue, mais j'ai toujours pas l'envie de les continuer, voilà.
Et puis comme tu t'es pris une lune en pleine gueule, t'as peut-être pas forcément envie d'y retourner.
Ouais, aussi. C'est traumatisant, hein.
Ok, très bien. Donc je propose qu'on ferme ce sujet et qu'on passe... Et qu'on passe du coup, Nati, je pense qu'avant qu'on passe sur les news, tu voulais nous parler d'un petit jeu qu'on attend, mais moins que son grand frère.
Ça, on l'attend moins, c'est pas vraiment, pour moi, pas vraiment une sortie, pas vraiment une news, un peu entre les deux. On va parler de FF8, la version remasterisée qui sort dans très très peu de temps, qui sort le 3 septembre. Et juste pour informer du coup qu'elle sort après une très longue attente. Je sais pas combien de temps on a attendu pour cette sortie de version remasterisée alors qu'on a eu FF10, FF10-2, FF12 et qu'on a bien sûr FF7 Remake qui va sortir bientôt, qu'on attend avec très très grande impatience.
Très très grande impatience.
Donc juste, très très grande impatience. Mais donc juste pour vous expliquer pourquoi on a mis autant de temps à avoir cette version remasterisée de FF8, c'est tout simplement parce que les créateurs ont perdu une grande partie des données originales du jeu. Donc, pour faire une version remasterisée, c'est un peu compliqué de repartir de zéro.
Je confirme, on a vu ce que ça a donné avec WoW Classic.
Voilà. Et le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont retrouvé les données, qu'ils ont fait une amélioration, ils se sont rendu compte qu'ils pouvaient faire encore mieux. Donc, voilà. Pour la très longue attente pour la sortie de FF8 remasterisé, qui sort le 3 septembre. Je suis un peu hypé quand même. Et il est pas très très cher, donc ça donne envie. Voilà.
Ok, news claire, rapide, précis, parfait.
Hey.
Juste, pas très très cher, c'est combien?
Il va sortir dans les 18-20 euros.
Pour un remaster, ça va.
Pour un remaster, je rappelle que le jeu est assez complet et était quand même un des très grands FF.
Un des plus appréciés.
FF7, c'était un des plus appréciés.
Ouais, et puis bon, on voit que je crois que c'était le remaster de FF10 sur PS Vita et tout était à 10 euros, donc ça va. Et ils ont beaucoup moins bossé dessus. Très bien. Bah, maintenant, on va passer aux news. Alors, pour les news, on va commencer par les joueurs PC. Arco, je crois que tu avais une petite news à nouveau, toute petite news.
Alors, très rapidement, du coup, au niveau de DirectX 12, on va avoir la mise en place par Microsoft de la compatibilité avec Windows 7. Parce que beaucoup de joueurs sont encore sous Windows 7, donc notamment 20% des joueurs Steam. Et une certaine partie de la communauté des joueurs de World of Warcraft, parce que Blizzard a mis à niveau son client, et il y a un certain nombre de personnes qui se sont retrouvées bloquées. Donc voilà, DirectX 12 qui va rejoindre Windows 7.
Voilà, et puis Microsoft du coup qui bosse avec beaucoup d'éditeurs pour beaucoup d'éditeurs PC pour que beaucoup plus de jeux puissent avoir accès au DirectX 12 sur Windows 7. Comme on n'a plus aux joueurs PC, on va continuer un petit peu, ça rentre un petit peu dedans. Avec, en fait, moi je voulais vous parler d'une petite news rapidos que m'a parlé Tipo sur le catalogue de jeux que va avoir Google Stadia. Donc Google Stadia, je rappelle, c'est la plateforme de jeux streaming de Google. Donc la machine, pour le moment, on entend encore un peu plus parler, mais ça fera partie de la next gen. Pour le moment, pas de date de sortie, mais ils ont annoncé quelques catalogues. Alors, dans ce catalogue, on aura un peu pour tous les goûts. Je vous en cite quelques-uns. On aura par exemple le merveilleux Mortal Kombat 11, un petit Assassin's Creed Odysseum, Borderlands 3, un petit jeu de simulator avec Farming Simulator 19, des jeux de sport comme NBA 2K20, le prochain qui sort ce mois-ci d'ailleurs, et Just Dance 2020 qui sort aussi ce mois-ci, et aussi des jeux un peu de carnage comme Doom. Oui, alors si vous avez pas repéré mes deux jeux préférés dans la liste, c'est que vous êtes un peu sans parfum. Mais voilà. Et plein d'autres. En tout, c'est 39 jeux qu'ils ont déjà annoncés qui seront disponibles à la sortie de leur machine. Je rappelle que ça sera sur un abonnement. Pour le moment, le prix est d'à peu près 9,90 $. Ça fait un peu moins euros, ça doit faire à peu près 8 euros en euros. Je laisse donc aux amateurs et aux indécis d'aller se renseigner sur la liste. On mettra la news qui nous a inspiré en description pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil et voir le surplus de et voir les autres jeux. Et puis ça sera tout pour moi sur la Google Stadia. Maintenant qu'on a parlé de joueurs PC, je propose qu'on passe sur des joueurs plutôt Switch. Le mois dernier, on a parlé de la sortie, je crois que c'est, oui, si je me souviens bien, le mois dernier, on a parlé de la sortie de ce que j'appelle la Switch Pro et de la Lite qui sortira un peu plus tard. Et du coup, les gens ont été un petit peu surpris à la sortie de la Switch Pro parce que elle est pas très différenciable de la Switch, c'est ça?
C'est pas vraiment la Switch Pro, en fait. C'est une nouvelle version de la Switch qui sort, qui est identique à la Switch classique que vous avez potentiellement déjà chez vous. La seule différence entre ces deux Switch, c'est l'autonomie, on va dire. En gros, là, si vous faites tourner le Zelda Breath of the Wild sur la Switch classique, vous avez, je crois, 2h30 d'autonomie, quelque chose comme ça. Et sur la nouvelle version qui vient de sortir, vous montez plutôt à 4h, voire 5h d'autonomie. qui est très intéressant du coup quand on veut jouer en version mobile avec notre Switch. On n'a pas trop d'informations sur tout ce qui a été modifié à l'intérieur. En tout cas, on sait qu'il va être un peu plus performant, plus d'autonomie. Et ils ont peut-être modifié aussi le hardware à cause de tous les hacks survenus sur cette console. Et donc, vu que c'est la même Switch en vrai, mais en amélioré, vous pouvez pas forcément la distinguer de celle que vous avez déjà achetée. Vous allez avoir deux manières de le faire. Une, très compliquée, avec le numéro de modèle. Il y a une petite différence avec entre les deux numéros de modèle. L'ancien a 3 lettres, 3 chiffres, et le nouveau, 3 lettres, 3 chiffres, et après, entre parenthèses, 2 nouveaux chiffres. Donc ça va être un peu compliqué à vérifier. Une autre façon, beaucoup plus simple de le voir, c'est la boîte, tout simplement. Votre boîte de Nintendo Switch classique, vous avez la console avec un fond blanc, on va dire, et le nouveau modèle a un fond rouge. Bien pétant, vous pouvez pas la rater. Voilà, donc c'est vraiment le moyen de voir que vous avez la nouvelle version et pas l'ancienne version de la Switch, celle qui a plus d'autonomie, etc., etc.
Voilà, donc si jamais vous l'achetez sur internet, faites attention à ce détail là parce que vous risquez de vous faire très vite avoir, parce que bon, c'est le même prix, mais du coup c'est pas la même autonomie, c'est pas la même puissance, donc bon, quitte à acheter un produit, autant avoir le bon produit,
c'est ça. Et sur internet, faites attention, on peut vous mettre la photo de la nouvelle boîte et vous envoyer l'ancienne, hein.
Hop, juste, je vous permets de vous interrompre parce que c'est moi qui fais la news Switch au truc dernier. Alors, du coup, il y a des rumeurs de Switch Pro qui sortiraient après la Lite. Là, ce qui sort, c'est pas une Switch Pro. C'est juste une classique mise à jour. Ils avaient juste annoncé la batterie qui serait mise à jour, mais du coup, il y a des rumeurs pour après la Lite, une Pro. Voilà. Je mets ça au clair.
Ok, super.
Pas de soucis, j'ai bien de le préciser.
Merci à toi, Arcos. Du coup, comme on a passé des joueurs PC, on n'a pas joué des joueurs Switch, Nintendo donc. Les joueurs Xbox, malheureusement, on n'est pas du tout Xbox. Désolé pour vous.
Il n'y a pas vraiment eu de news non plus.
Non plus, en plus. Du coup, moi, je vais vous finir sur une petite news sur la PS5. Parce qu'en fait, depuis 2-3 jours, on voit apparaître des images sur ce que pourrait être la forme de la prochaine PS5. Donc du coup, je voulais en reparler un petit peu. Alors la prochaine PS5, dont on n'est pas encore sûr que ça soit le nom officiel, mais bon, qui devrait être l'être quand même pour une question marketing et facilité, commence à quand même faire sacrément parler d'elle depuis l'E3. Avec notamment ses caractéristiques qui est donc en fait principalement le graphisme l'immersion en jeu qui seront beaucoup plus travaillées, notamment grâce à un passage à la 8K en termes d'image où Sonic qui reste quand même avec la puissance en partenariat avec AMD qui vont mettre un processeur AMD Ryzen 2 donc assez puissant et une puce graphique AMD Navi pareil assez puissante qui permettront de mettre en place en fait une nouveauté qui sera le ray tracing en fait qui est une nouveauté d'Nvidia depuis un an donc pas plus vraiment une nouveauté mais qui venait de Nvidia qui permet en fait une meilleure gestion des lumières dans le jeu et aussi sur l'audio 3D qui ont déjà commencé à travailler beaucoup sur la PS4 mais là qui vont rebooster pour pouvoir, comme j'ai dit, avoir une meilleure immersion dans le jeu et aussi améliorer le stockage avec un stockage flash SSD, donc en fait un stockage qui est assez élevé et assez puissant et rapide qui permettra du coup de diminuer fortement, on l'espère en tout cas, les temps de chargement, notamment dans les jeux d'open world où les cartes peuvent se charger un peu trop lentement. Je pense que par exemple au dernier Spider-Man qui a eu quelques problèmes de lag à ce niveau-là. Et donc pour revenir sur le graphisme de la boîte, en fait on voit en ce moment, si vous cherchez un petit peu les informations sur la PS5, on voit en fait une espèce de brique, un boîtier en forme de brique avec un espèce de V un renfoncement en V au milieu. On a toujours ce que j'appelle moi la valeur de disque, et bien sûr en fait le lecteur de disque, et les ports USB qui sont toujours sur l'avant. De mon point de vue, j'espère que ça va pas être ça le graphisme final de la PS5, parce que je le trouve un peu moche, mais étant donné qu'il y a un peu plus de trous d'aération, ça permettrait quand même d'avoir une PS5 qui respire beaucoup plus. Et du coup, enlever un des défauts majeurs des PlayStation depuis la première, à savoir en fait le processeur et les cartes graphiques qui peinent à être réfrigérés par les ventilos qui sont pas assez puissants ou trop éloignés. ou alors tout simplement parce que le processeur et la carte graphique chauffent trop, et là du coup ça permettrait de diminuer, voire même d'annuler ce petit problème, voilà.
Ok, et surtout prévoyez d'acheter une nouvelle télé avec.
Ouais, parce que la 8K elle passera pas sur les vieilles télés, ça c'est sûr.
Voilà, gros budget en prévision.
Tout à fait, après j'avais vu le prix, au début Sony pensait... Alors, tout ce qui est caractéristique et boîtier sont encore susceptibles de changer. On n'a pas d'informations officielles venant de Sony. Enfin, on a des informations semi-officielles de gens qui travaillent chez Sony et qui ont donné des trucs à des journalistes, mais Sony en soi n'a toujours pas fait d'annonce. Donc, prenez pas pour un genre content tout ce que vous trouvez. Mais bon, elle devrait sortir à peu près au même prix que la sortie de la PS4 doit savoir dans les... dans les 500 euros. Mais il y a quelques rumeurs disant que ça pourrait tabler plutôt autour des 800. Bon, alors, si personne n'a plus rien à ajouter...
Non, non, non.
Non, c'est bon.
Ok, alors il est temps de faire un petit résumé de l'émission.
Wouhou, vas-y, rappelle-nous tout.
Je vais vous demander de me rafraîchir la mémoire aussi sur certains trucs. Alors, on a commencé par un petit test de jeu sur la démo de Dragon Quest 11 qui va sortir sur Switch et qui est sortie l'année dernière sur PS4, je crois, c'est ça?
C'est ça, et PC.
Et PC, d'accord. Et qui, du coup, a une démo de faire saliver les joueurs et qui sortira du coup sur Switch, tu nous as dit, fin septembre, c'est ça?
Le 27 septembre.
Le 27 septembre. Ensuite, on vous a présenté l'extension de Monster Hunter World, tout ça qui s'appelle Iceborne, tout le monde, dont Netty se base un petit peu dessus, qui sortira du coup le...
6 septembre.
Le 6 septembre, donc dans 3-4 jours. Et moi-même, je vous ai parlé d'un petit jeu Peggy 18 qui sortira le 3-9-2019, donc 3 jours après cette rubrique, qui s'appelle donc Catherine Full Body. Voilà. Ensuite, Arcos nous est allé sur les peines de Termina, essayer d'interviewer notre héros Link, mais a malheureusement vu son interview coupée, et aussi bien par l'épée de notre jeune héros que par une lune qui lui fonce dessus. Mais ce qui nous a fait une parfaite transition pour le gros jeu attendu qui est ce mois-ci, qui est The Legend of Zelda Link's Awakening, qui sortira donc le 29-2019 sur Switch. Ensuite, notre petite Natis nous a fait une news sortie sur le FF8 Remaster, où en fait nous a expliqué pourquoi ça a été si long à sortir et qui sort déjà le
3 septembre.
Donc qui sort en même temps que
Catherine Full Body,
tout à fait. Voilà, ça va être dur de choisir. Et puis ensuite, on a vu quelques news. Microsoft qui travaille activement avec les éditeurs de jeux pour mettre le DirectX 12 sur Windows 7, qui va faire plaisir à ceux qui utilisent le système d'exploitation Windows. En restant sur les PC, on a parlé de la prochaine machine de Google, à savoir Google Stadia, qui sortira on ne sait pas quand, mais qui a déjà annoncé un petit catalogue de jeux. Je vous laisse le revoir dans le lien qui sera dans la description. On vous a donné deux petits moyens aussi pour trouver, pour différencier la Switch boostée de la Switch normale grâce à Natiz. Et puis enfin, on a fait, je vous ai donné quelques caractéristiques et visuels de ce que pourrait être la PS5 qu'on attend toujours et que de toute façon on attendra encore pour un petit moment. Mais voilà, il me reste plus qu'à vous dire, eh bien, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous a plu, à la faire partager à vos amis, à vos ennemis, à vos frères, à vos sœurs, tout ce que vous voulez. De nous suivre sur les réseaux sociaux RestoGeek, que ce soit sur Twitter, Instagram, YouTube, j'en oublie un.
Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Facebook, merci la community manager. Ou Facebook. Et puis je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bonne nuit à ceux qui nous écoutent avant d'aller se coucher. On se revoit dans 2 semaines pour l'épisode 5 de TARDIS ou le mois prochain pour l'épisode 5 de Burger Game. Et sur ce, à bientôt.
Adios.
A bientôt.
What have I got?
C'était votre émission d'actualité jeux vidéo, Burger Games.